Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinine, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 1er décembre 2023, le 10 Azar 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez à l'écoute. L'Iran dénonce la reprise des attaques israéliennes sur Gaza. Le Yémen se dit prêt à reprendre les attaques anti-israéliennes à l'expiration de la trêve et le premier ministre espagnol appelle l'UE à reconnaître la Palestine. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. La trêve prend fin et Israël reprend ses frappes contre la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé de Gaza, des dizaines de personnes ont été tuées depuis que l'armée israélienne a repris ses attaques meurtrières contre la bande assiégée après l'expiration d'un cessez-le-feu temporaire. Vendredi après-midi, la chaîne Al Jazeera a avancé un bilan de 70 morts palestiniens, chiffre confirmé jusqu'au moment de la rédaction de ce titre d'actualité après un bilan préliminaire de 21 morts plus tôt dans la journée. Le chiffre fera certes l'objet de mises à jour consécutives. Deux personnes ont été tuées à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, sept à Al-Maghazi, dans le centre, une personne dans la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, deux autres dans la ville de Hamad, au sud de Khan Younes, et neuf à Ramallah, dans le sud de la bande de Gaza. Des explosions et des tirs ont été signalés dans le nord de la bande de Gaza. Des rapports indiquent que les habitations des Palestiniens ont été attaquées dans la zone d'Al-Shima, située au nord de l'enclave palestinienne assiégée. De nombreux blessés palestiniens ont été transférés à l'hôpital Kamal Adwan depuis la reprise des attaques. Le ministère de l'Intérieur basé à Gaza a déclaré qu'Israël avait lancé des frappes d'artillerie sur la partie nord-ouest de la bande de Gaza. Les affrontements faisaient rage entre les militaires israéliens et les combattants de la résistance dans le nord-ouest de Gaza. Rapportent les médias, des sirènes ont retenti dans les colonies de peuplement près de Gaza lorsque le régime israélien a prétendu avoir intercepté une roquette tirée depuis Gaza. La trêve, qui avait été prolongée à deux reprises, a débuté le 24 novembre et s'est terminée ce vendredi le 1er décembre à 7h du matin hors local. Le cessez-le-feu avait interrompu les frappes brutales israéliennes sur Gaza qui avaient débuté début octobre. La trêve a permis la libération de 240 prisonniers palestiniens et de 105 captifs israéliens détenus à Gaza. Elle a permis de faire parvenir une partie de l'aide humanitaire à Gaza, mais selon les organisations humanitaires, les quantités fournies étaient bien inférieures aux besoins. Plus de 15 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont jusqu'ici été tués dans les frappes israéliennes. Après avoir tué plus de 15 000 Palestiniens, les vampires sionistes ont lancé un nouveau cycle meurtrier avec le soutien continu du gouvernement américain, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Kanani a souligné dans un message sur la plateforme sociale X que la violation du cessez-le-feu et la reprise de l'agression militaire de l'entité sioniste contre Gaza s'était produite quelques minutes avant que le secrétaire d'État américain Blinken ne quitte les territoires occupés. Une fois de plus, les civils, les enfants et les femmes sont les principales victimes des attaques criminelles lancées par l'armée sioniste, a-t-il écrit. Les nations et la grande majorité des gouvernements du monde réclament la poursuite du cessez-le-feu et l'arrêt complet des attaques du régime israélien contre Gaza et la Cisjordanie, mais les sionistes criminels et infanticides cherchent la victoire dans le fantasme absurde de compenser la défaite irréparable en tuant des civils, des enfants et des femmes. Il est évident que la responsabilité politique et juridique du massacre du peuple palestinien incombe aux criminels du régime sioniste, mais aussi au gouvernement américain et à quelques gouvernements qui soutiennent ce régime d'apartheid, a-t-il ajouté. On vous lisait aussi en titre, les forces armées yéménites se déclarent prêtes à reprendre leur opération contre les cibles israéliennes en Palestine occupée et en mer Rouge. Les forces armées yéménites se sont engagées à reprendre leur opération contre les cibles situées au plus profond des territoires occupés par Israël en 1948, notant qu'elles cesseront leurs attaques dès que l'agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza prendra fin. Le Yémen a publié un communiqué jeudi, quelques heures avant l'expiration d'une trêve temporaire entre le mouvement Hamas et le régime israélien, conformément aux directives du leader du mouvement de résistance yéménite, Nasrallah Abdelmalek al-Houssi, et en réponse aux appels de la grande nation yéménite ainsi que des Arabes et des musulmans épris de liberté à se tenir fermement aux côtés des Palestiniens et de leur front de résistance, les combattants yéménites expriment leur pleine préparation à relancer leur opération militaire contre l'ennemi israélien si ce dernier choisit de recommencer son agression contre Gaza, peut-on lire dans le communiqué. Il souligne que les troupes yéménites n'hésiteront pas à étendre leur attaque contre les cibles israéliennes pour porter atteinte aux intérêts du régime dans les territoires occupés en mer. Les forces armées yéménites, comme cela a été déclaré précédemment, continueront d'empêcher les navires israéliens de naviguer dans les eaux de la mer Rouge et adopteront de nouvelles mesures pour garantir la mise en œuvre efficace de cette stratégie, ajoute le texte. À ce sujet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a salué le soutien du Yémen au peuple palestinien lors de l'escalade de l'agression israélienne. Le plus haut diplomate iranien s'est rendu jeudi à l'ambassade du Yémen à Téhéran pour exprimer la gratitude de la République islamique envers Sanaa pour son soutien au peuple palestinien. Le soutien du Yémen à la population de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée est admirable, a déclaré Amir Abdollahian lors de sa rencontre avec l'ambassadeur yéménite Ibrahim Mohamed al-Dailami. Suite de deux journaux, le premier ministre espagnol appelle lieu à reconnaître la Palestine. Le premier ministre espagnol a exprimé des doutes sur le fait qu'Israël respecte le droit international dans sa guerre contre Gaza, étant donné le nombre élevé de victimes civiles. Au vu des images que nous voyons et du nombre croissant d'enfants qui meurent, j'ai de sérieux doutes qu'Israël respecte le droit humanitaire international, a déclaré Pedro Sanchez. Ce que nous voyons à Gaza n'est pas acceptable, a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne publique espagnole TVE. Sanchez a également déclaré que l'Union européenne devrait reconnaître un État palestinien car cela contribuerait à mettre fin au conflit et à stabiliser la région. Le Parlement espagnol a voté en 2014 en faveur d'une résolution appelant la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État. Or, le vote n'était toutefois pas contraignant et il n'y a eu aucune suite. Pendant toutes ces années, nous avons vu comment Israël occupait systématiquement le territoire palestinien, a-t-il ajouté en faisant référence à l'expansion des colonies israéliennes. La semaine dernière, Sanchez a dénoncé le massacre aveugle de civils innocents, dont des milliers de garçons et de filles, par Israël dans la bande de Gaza. La violence ne fera que conduire à davantage de violence, a-t-il déclaré lors d'une visite du côté égyptien du terminal de Rafah à Gaza. Il a également appelé à un cessez-le-feu permanent. Israël a répondu à ce qu'il a qualifié de déclaration honteuse de Sanchez en convoquant l'ambassadeur d'Espagne pour une réprimande et en rappelant son envoyé à Madrid pour des consultations. En raison de propos scandaleux du premier ministre espagnol qui a encore une fois répété des affirmations sans fondement, j'ai décidé de convoquer l'ambassadeur d'Israël en Espagne pour des consultations, a écrit sur X le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen. La nouvelle querelle est survenue moins d'une semaine après qu'Israël a exprimé sa colère contre Sanchez et son homologue belge, Alexander de Croo, qui ont exigé que le régime arrête son massacre de civils à Gaza. Et pour fermer le journal, sachez que lors d'une conversation téléphonique ce jeudi avec le ministre saoudien de la Défense, le prince Khaled bin Salman, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Barheri, a affirmé que les forces armées iraniennes sont prêtes à renforcer leur coopération avec leurs collègues saoudiens. Le général Barheri a salué les efforts des deux pays pour améliorer leurs relations et la tenue par Riyad d'une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, sur les attaques brutales d'Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le prince Khaled Ben Salman a déclaré pour sa part que l'Arabie saoudite se félicitait de l'amélioration de la coopération entre les forces armées iraniennes et saoudiennes. Bareilly et Khaled Ben Salman ont également discuté des questions importantes du monde musulman et se sont invités mutuellement à visiter leurs pays respectifs. En mars dernier, l'Iran et l'Arabie saoudite étaient convenus dans le cadre d'un accord négocié par la Chine de rétablir leurs relations diplomatiques interrompues en 2016. Dans le cadre d'une déclaration conjointe publiée par les deux parties, l'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu de mettre en œuvre un accord de coopération en matière de sécurité signé en avril 2001 et un autre accord conclu en mai 1998 pour renforcer leurs relations dans divers secteurs. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Les dépenses militaires des États membres de l'Union européenne ont atteint un niveau record de 240 milliards d'euros, soit 262,4 milliards de dollars américains en 2022, dans un contexte de ralentissement économique général dans la région. Ce chiffre des dépenses de défense a été divulgué dans le dernier rapport de l'Agence européenne de défense AED publié jeudi. Ce chiffre est en hausse de 6% par rapport à l'année dernière, marquant une tendance de croissance remarquable sur 8 années consécutives selon le rapport EDA Defense Data 2022. Parmi les 27 États membres de l'UE, 20 ont augmenté leurs dépenses de défense. 6 pays ont connu des taux de croissance supérieurs à 10%. La Suède, elle, dépense plus de 30%. Nos forces armées doivent être prêtes à affronter une époque beaucoup plus exigeante, a déclaré le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, qui dirige l'AED. Cette somme énorme a été dépensée à un moment où le rythme de croissance des 27 économies de l'UE a diminué à environ 0,8% cette année, selon la Commission européenne. C'est en baisse par rapport à l'estimation de 1% faite en mai. S'adapter à ces nouvelles réalités signifie avant tout investir davantage dans la défense, a ajouté Borrell. L'investissement militaire a coûté très cher à l'Union européenne. La fourniture d'armes à l'Ukraine a fortement aggravé la pression inflationniste qui se sont accentuées dans la zone euro pendant la reprise post-pandémique et a fait grimper les prix à la consommation, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation, augmentant ainsi le coût de vie. L'AED a indiqué dans son rapport annuel qu'un montant record de 58 milliards d'euros a été alloué dans l'UE aux investissements de défense en 2022, en grande majorité avec l'achat de nouveaux équipements. Dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'inflation dans les pays membres de l'UE est passée de 2,6% en 2021 à 8,4% en 2022. L'inflation énergétique et alimentaire représentait plus des deux tiers de cette inflation record en 2022. Christian Sewing, PDG de la Deutsche Bank, affirme que l'Allemagne deviendra une fois de plus l'homme malade de l'Europe si les problèmes structurels ne sont pas résolus immédiatement. Les pays de l'UE ont vidé leurs stocks en envoyant des armes d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine pour l'aider à combattre la Russie. Bruxelles s'efforce d'amener les entreprises européennes de défense à augmenter leur production pour faire face aux nouvelles demandes suscitées par la guerre. L'UE a également poussé les États membres à signer des contrats communs et les pays ont commencé à s'unir pour commander des obusiers pour l'Ukraine et leurs propres forces. Faute de capacité industrielle, le bloc ne devrait pas atteindre son objectif sur 12 mois consistant à envoyer 1 million d'obus à l'Ukraine d'ici mars.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors nous parlons bien sûr des actes barbares du régime sioniste contre la bande de Gaza. En effet, après 7 semaines de guerre génocidaire par le régime israélien contre la bande de Gaza et en Cisjordanie, une trêve relative est en cours, mais malheureusement les violations flagrantes et multiples du régime israélien contre la bande de Gaza et en Cisjordanie mettent en cause l'acheminement de l'aide humanitaire, du carburant et de la nourriture, ce qui est indispensable pour les Palestiniens pour la survie. Alors on voit aucune bonne volonté du régime israélien dans cette trêve, donc ça mettra certainement en cause la prolongation de la trêve par la suite. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, affirme qu'il existe un consensus international sur la nécessité d'établir un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, après environ 7 semaines de guerre génocidaire menée par le régime israélien. Le chef de la diplomatie iranienne a fait ses remarques lundi lors d'un appel téléphonique avec son homologue suisse, Ignacio Cassis. Amir Abdollahian a évoqué la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en Palestine, prévue pour mercredi. Il existe un consensus international sur la priorité de cesser durablement les attaques d'Israël contre Gaza et la Cisjordanie occupée, de lever le blocus de Gaza, d'envoyer de l'aide humanitaire, y compris des médicaments, de la nourriture et du carburant, et d'empêcher l'expulsion forcée des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Le responsable suisse a pour sa part exprimé son inquiétude quant à la situation dans les territoires palestiniens, tout en soulignant la nécessité de libérer les prisonniers, de soutenir les civils, d'envoyer de l'aide humanitaire aux zones touchées et d'empêcher une nouvelle escalade de la guerre à Gaza. Il a fait état des consultations menées par son pays pour protéger la vie des civils ainsi que les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Cassis a exprimé l'espoir que la trêve en cours à Gaza soit prolongée pour une période plus longue. Les Israéliens mènent des raids brutaux en Cisjordanie pendant la trêve à Gaza. Les sources officielles palestiniennes font état de l'arrestation de 260 Palestiniens par l'armée israélienne en Cisjordanie durant la trêve humanitaire à Gaza. Les violations continues israéliennes mettent en danger l'accord de trêve humanitaire, a pourtant averti le mouvement de la résistance Hamas. L'armée israélienne mène des campagnes d'incursion quotidiennes dans les villages et les villes de Cisjordanie qui dégénèrent en affrontements, en arrestations et en fusillades, et tirent de bombes lacrymogènes contre les Palestiniens. Israël a commencé sa guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre à la suite d'une opération surprise lancée par les groupes de résistance palestiniens contre le régime occupant de Rhodes. Une trêve de 4 jours est entrée en vigueur vendredi 24 novembre dans la bande de Gaza. Elle a été prolongée de 2 jours après son expiration lundi 27 novembre 2023. Le régime israélien a libéré un autre groupe de prisonniers palestiniens après que le mouvement de résistance Hamas a libéré près d'une douzaine de captifs dans le cadre de la 4e phase d'un accord d'échange entre les deux parties. Les autorités pénitentiaires israéliennes ont libéré 33 prisonniers palestiniens tôt mardi 28 novembre. Quelques heures après que le mouvement Hamas a livré à la Croix-Rouge 11 ressortissants étrangers retenus en captivité dans la bande de Gaza. Les captifs libérés avaient la double nationalité française, allemande et argentine.
Eh bien voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat, un débat prometteur car nous avons 2 invités très spéciales. En commençant par Emadeddin Hamrouni, universitaire et expert des questions internationales, qui accepte notre invitation depuis Paris. Monsieur Hamrouni, bonjour.
Bonjour à vous, à notre cher invité, Monsieur Cornu, et à tous nos téléspectateurs.
Merci à vous. Un grand bonjour à Bernard Cornu, qui est avec nous depuis Vaucluse, également expert des questions internationales, un homme de terrain qui est avec nous depuis Vaucluse. Donc, bonjour, Monsieur Cornu.
Bonjour, et je suis aujourd'hui à Paris. Je voyage beaucoup, effectivement, dans cette situation de crise pour consulter beaucoup de personnes.
Absolument. Donc, vous êtes près de Emadeddin Hamrouni, vous êtes dans la même ville. C'est un débat. Alors, ma première question va s'adresser à Emadeddin Hamrouni. Que pensez-vous de cette trêve? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une trêve très fragile? Est-ce que vous croyez à la prolongation d'un cessez-le-feu, M. Mahdedine Hamrouni?
D'abord, on doit saluer le courage du peuple de Gaza, parce que les scènes qu'on a vues, la destruction qu'on voit depuis 4 jours maintenant, c'est horrible. C'est-à-dire, on ne l'a jamais vu. Peut-être lorsqu'on était très jeune, on a vu des scènes de guerre en Allemagne ou en France ou en Normandie, ou la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. C'est horrible, c'est-à-dire on ne croit même pas ce qu'on est en train de voir, d'une part. D'autre part, la bravoure de la résistance palestinienne, ce courage anéthique par rapport à ce qu'on a vu sur les reportages, comment ils étaient avec les prisonniers israéliens, les enfants et les femmes. Donc vraiment, il y en a beaucoup et énormément de leçons à tirer de ces scènes de sauvagerie, des sauvageons, en fait. On n'est pas dans une guerre, on est dans une destruction de la vie. Et donc, devant ces scènes horribles, on doit réagir. Et le monde a réagi. Et le monde en Occident a réagi. Le peuple d'Europe a réagi. Le peuple américain a réagi. Et ça, aussi, c'est un éveil extraordinaire. On l'a vu dans la guerre de Vietnam, un peu aussi dans les années 80, dans la guerre en Afghanistan. Mais là, il y a un éveil global, mondial, pour dire arrêter ces actes criminels, pour demander un cessez-le-feu immédiat. Et donc, le changement, grâce au courage du peuple de Gaza, grâce au courage de la résistance palestinienne, aujourd'hui même le président Biden pense que la guerre ne peut pas continuer. Donc ça, c'est un grand changement que les États-Unis pensent qu'il faut arrêter la guerre. Mais comment? Parce que arrêter la guerre, d'accord, mais comment sauver le soldat Netanyahou?
Absolument. Bernard Cornu, est-ce que vous pensez, comme Mahdedine Hamrouni, quand il dit que c'est l'éveil, et la motivation et la volonté des peuples qui ont poussé le régime israélien d'accepter une trêve, ou bien c'est une politique?
Disons, le gouvernement de Netanyahou, le gouvernement de crise, de guerre, avait deux priorités, sans dire quelle était laquelle. C'était éradiquer le Hamas. Tout le monde sait que ce n'est pas possible, parce que c'est éradiquer une résistance, et la résistance restera tant qu'il y aura occupation. Et il voulait aussi récupérer les nombreux otages civils et aussi militaires qui avaient été pris par le Hamas durant son incursion du 7 octobre. La pression sociale, la pression des manifestations des familles des otages a fait que cette priorité de récupérer les otages est devenue importante, peut-être la première, sans que officiellement le gouvernement renonce à sa deuxième priorité, c'est-à-dire la tâche impossible d'éradiquer le Hamas, d'éradiquer la résistance palestinienne tant qu'il y a occupation. Et donc il a accepté cette trêve qui a été proposée par le Hamas et par aussi les autres mouvements de résistance présents à Gaza, le Front populaire de libération de la Palestine, qui, paraît-il, réclame déjà maintenant le plus vieux prisonnier d'Europe politique, Monsieur Ibrahim Abdallah. Ça a été accepté, c'est prolongé, mais aussi maintenant qu'il y a eu cette trêve, il y a eu plus de journalistes, autres, il y a toujours eu les journalistes d'Al Jazeera, mais il y a eu d'autres journalistes, il y a eu des drones qui ont montré des images, et le public occidental qui regarde guerre Al Jazeera a pu voir l'impact des destructions, qu'on ne pouvait ignorer d'ailleurs, puisqu'on a vu même pendant les séances de guerre les images de l'armée israélienne qui montraient comment leurs bombes JDAM, leurs bombes américaines, ciblaient les immeubles et comme les immeubles s'écroulaient. Donc même si on a parlé surtout des morts, des 11 000, 12 000, peut-être maintenant 15 000 morts palestiniens de Gaza, y compris sans doute quelques otages aussi, on ne pouvait ignorer que des milliers d'immeubles avaient été détruits par ces bombes. Je voudrais, effectivement, on aura demain une réunion du Conseil de sécurité qui sera par chance présidée par la Chine, qui a toujours une position juste et qui est intéressée maintenant quand même à la, pacification du Moyen-Orient parce qu'elle a besoin du pétrole, c'est très réaliste cette position, elle peut proposer des résolutions qui permettent de prolonger cette trêve en un cessez-le-feu. On peut espérer que ça passe. Les Américains aussi ont vu les images nombreuses des destructions et donc une certaine empathie des peuples et les manifestations qui se poursuivent partout, tous les jours, dans beaucoup de villes du monde entier, sensibilisent aussi les politiques à prendre des décisions beaucoup plus humaines pour prolonger ce cessez-le-feu et au-delà, tenter d'arrêter la guerre, qui a commencé il y a bien longtemps, en 1948 et même avant. Je voudrais dire que j'ai derrière moi une carte historique de 1893 qui a été faite à la demande de l'empereur Guillaume II qui s'intéressait beaucoup à la Mésopotamie, à son antiquité. Il y avait beaucoup de fouilles allemandes en Mésopotamie à cette époque. Et aussi, il s'intéressait au pétrole puisque l'Allemagne avait beaucoup de chimistes, avait l'importance de ceci. Et quelques années après, l'empereur Guillaume II est allé en Mésopotamie, est allé en Terre Sainte, ce qu'on appelait à l'époque la Terre Sainte, en Palestine, accompagné, rejoint d'ailleurs vite par le fondateur du sionisme, Theodor Herzl. Et d'ailleurs, je dois citer ce discours de Guillaume II en 98 en Palestine, où il a dit « Il y a ici suffisamment de place pour tout le monde, il suffit d'un peu d'eau et d'ombre. Wasser und Schatten. » C'est très important parce qu'en fait, même si Israël a très peuplé par les Juifs, les colons de Sabra et aussi les nouveaux colons, les Russes et des gens du Maghreb ou d'ailleurs du Caucase, il y a aussi bien sûr beaucoup de Palestiniens qui étaient présents là depuis des siècles, mais c'est quand même de toute façon moins dense que c'était à Gaza où la densité était énorme, et proche de celle de Singapour ou de villes énormes comme Tokyo. Et donc on peut espérer qu'il y ait une solution politique pour que deux peuples vivent dans deux États, chacun avec une partie de Jérusalem comme capitale, en paix et en sécurité. Et cette sécurité et cette paix étant garanties par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, des cinq membres permanents qui actuellement sont l'organe du droit international, même s'il est imparfait. Puisqu'il protège ces grandes puissances en toute impunité, il est le système existant et il faut s'y référer. Donc j'espère qu'après un cessez-le-feu, le Conseil de sécurité pourra développer une résolution sous chapitre 7, c'est-à-dire celles qui sont exécutables sous menace d'intervention militaire d'un comité d'état-major des Nations Unies, tel que c'est prévu par la charte dans son chapitre 7, et pourra mettre fin à toutes les guerres de la région, à l'occupation turque en Syrie, à la pacification et de nouvelles élections peut-être en Syrie, en Irak, conformément aux résolutions qui existent déjà, et à des élections aussi en Israël, parce qu'il est sûr que Netanyahou va bientôt tomber, il est sous menace de l'extrême droite, mais de la population aussi qui ne le soutient plus, des élections Absolument. En Syrie, et aussi mettre fin à la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, en faisant aussi des référendums pour voir quelles sont les populations qui souhaiteront se rattacher définitivement à la Russie et celles qui veulent rester à l'Ukraine et éventuellement entrer dans l'Europe.
Absolument. Monsieur Mouadedine Hamrouni, que pensez-vous des propos de Monsieur Bernard Cornu? Est-ce que vous partagez son optimisme quant à l'avenir de ces deux États ou bien en voyant la destruction que mène le régime israélien dans la bande de Gaza? Est-ce qu'on peut espérer une bonne volonté chez le régime sioniste?
Oui, M. Cornu, il a beaucoup d'espoir. Hein. Mais bon, vous savez, cette guerre sonne la fin du sionisme. C'est-à-dire que la chose qui bloque la paix dans la région, c'est le sionisme, c'est l'idéologie sioniste. Ce n'est pas la présence des Juifs. La présence des Juifs ou des musulmans ou des chrétiens ou d'autres, cette présence, elle est millénaire. Donc on ne discute pas la présence des Juifs en Palestine. Ça, c'est faux. La Palestine, elle est pour tout le monde, pour tous ceux qui habitent en Palestine. Le problème, c'est le sionisme. Et qui soutient le sionisme? C'est le système colonial occidental, à sa tête les États-Unis. Aujourd'hui, les peuples du monde ne veulent plus l'américanisation. Même le peuple américain ne veut plus de ce système colonial sioniste à l'intérieur même des États-Unis. Donc, c'est une révolution mondiale contre le sionisme et contre le colonialisme. on dirait qu'on est dans les années 70 du siècle dernier. C'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui, elle est anticoloniale, anti-sioniste. Aujourd'hui, en France, par exemple, on n'a plus de gens de gauche ou de gens de droite. On a des gens qui sont sionistes et on a des gens qui sont anti-sionistes. Les sionistes, il y a de l'extrême droite, il y a de la gauche, il y a des libéraux, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Et les anti-sionistes, c'est pareil. Donc le monde se divise en deux. Ceux qui défendent l'humanité et ceux qui défendent les sionistes. Le sionisme ici, c'est une idéologie, ce n'est pas une religion. Et donc il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Le nombre de gens qui sont morts par millions, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Liban, aujourd'hui on le voit en Palestine, comme l'a dit M. Cornu, ça fait 7 décennies maintenant que la tuerie continue par des sionistes, pas par des juifs. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre de religion en Palestine. C'est l'Occident qui essaie de dire, oui, c'est les juifs, ils ont le droit de retrouver leur pays d'origine, où ils étaient il y a 2000 ans, où ils habitaient il y a 2000 ans. Vous vous rendez compte? Entre parenthèses, M. Fillon raconte, l'ancien Premier ministre français, qu'un jour, il était avec Ayatollah Rafsanjani, ils parlaient ensemble à Téhéran, et M. Fillon parlait du problème d'Israël. Il disait au feu Rafsanjani, paix à son âme, pourquoi vous faites la guerre Israël, les Juifs, ils ont le droit d'être en Palestine. Et Rafsanjani, Ayatollah Rafsanjani, lui dit pourquoi ils ont le droit. Il lui dit oui, parce que dans la Bible, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, ils étaient là-bas. Alors Ayatollah Rafsanjani, il a fait un sourire, il a dit d'accord, nous aussi, en tant que Perses, il y a 5000 ans, on était en Inde. Donc on va réclamer l'Inde aussi. Donc vous voyez, aujourd'hui, on vit la fin du sionisme. Et on vit le début de la fin de l'américanisation de la région. Et ça, c'est un événement historique. On vit un événement historique. Avant, c'était les peuples de la région qui se battaient et continuent à se battre contre le colonialisme. Aujourd'hui, c'est la jeunesse européenne, c'est la jeunesse américaine, c'est la jeunesse canadienne. C'est toute cette jeunesse forte qui ne veut plus d'un système colonial, qui ne veut plus d'un système qui opprime l'humain. Parce que le problème, c'est un problème humain. Aujourd'hui, on a une urgence humaine à Gaza. On a besoin de médecins, on a besoin de médicaments, on a besoin de l'eau, on a besoin d'essence, on a besoin de la vie à Gaza. Qui fait obstacle à la vie à Gaza? C'est les États-Unis. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont la plus grande responsabilité d'arrêter cette guerre. Et on a vu qu'au sein même de l'administration américaine, il y a un changement. On a vu bien ici en France, le Quai d'Orsay français, les affaires étrangères françaises, c'est le dernier clan catholique en France qui fait de la politique. C'est-à-dire catholique, c'est-à-dire anti-sioniste. Le Quai d'Orsay, il est anti-sioniste. Mais il subit la force et la violence et l'influence de lobby sioniste en France. Donc on voit des voix qui s'élèvent et qui disent il faut arrêter, il faut que la position française change, il faut que la France protège ses intérêts. Il faut que la France protège les civils. Il faut que la France ait un rôle important. La France fait partie des 5 membres permanents de l'ONU. Donc c'est très important de voir l'Angleterre, la France agissent ensemble pour arrêter cette guerre. Donc il faut demander un cessez-le-feu. Et il faut noter aujourd'hui, il y a la journée internationale de la solidarité avec la Palestine. Tous les lycées et les universités en France, il y aura des manifestations aujourd'hui, ce soir, à 18h30, place de la Sorbonne. La plupart des étudiants à Paris, ils seront ensemble pour dire « nous sommes tous des Palestiniens ».
Oui. Bernard Cornu, est-ce que vous partagez l'avis de M. Mahdedin Hamrouni quand il parle de la fin du sionisme dans le monde, de la fin de l'américanisation du Moyen-Orient?
Oui, je vois qu'il est aussi optimiste, qu'il a quelque espoir que la situation change. Il a évoqué effectivement le mécanisme colonial dirigé par les États-Unis. Moi, je voudrais préciser que ce mécanisme colonial, le mécanisme du sionisme, il est soutenu en fait par un mécanisme colonial économique. Et comme j'ai rappelé, dès la fin du siècle dernier, vers les années 1892, 96, 97, au moment du développement du moteur diesel, qui a été très important, très rapide, le pétrole est devenu une ressource stratégique. D'où la division entre la Russie tsariste et l'Angleterre d'un partage de concessions pétrolières dans l'Iran, et aussi cette volonté de Guillaume II d'avoir un chemin de fer en Mésopotamie, d'exploiter le pétrole. Les Anglais aussi ont créé une Turkish Petroleum Company en 1911-12 et au volet une concession pour le pétrole dans tout l'Empire ottoman qu'ils ont demandé au printemps 1914. Et d'ailleurs, les historiens disent est-ce que ça a été validé ou pas validé, mais en tout cas, ils ont contrôlé l'Iraqi Petroleum Company en Irak, qui a été une ressource très importante pour le Royaume britannique et pour les pétroliers anglo-saxons. Et c'est pour ça que je dis toujours que la paix viendra aussi si on fait des efforts aussi en Occident et partout ailleurs, dans les pays pétroliers, pour diminuer l'importance du gaspillage du pétrole, diminuer sa valeur, et donc permettre de recourir à d'autres ressources beaucoup mieux réparties que sont la biomasse, que sont les énergies solaires et éoliennes. Les deux choses sont liées. Si on baisse l'importance du pétrole, on baissera la volonté des anglo-saxons, et notamment des Texans américains, puisque le pétrole a été très important là-bas, et tout ce Texas a généré des dynasties de patrons de la CIA et de patrons de l'Amérique, de la présidence américaine. Et donc, c'est vraiment, les deux phénomènes sont liés. Et c'est pour ça que cette COP 28, qui se déroule à partir d'hier, est très importante, parce que diminuer l'importance stratégique du pétrole, passer à des ressources mieux réparties, passer à une taxation très forte de ces ressources fossiles, et donc du CO2, pour diminuer leur consommation, diminuer le gaspillage qui est phénoménal en Occident. Les voitures sont pleines à 1,2 personnes alors qu'elles pourraient transporter 5 personnes. C'est un gaspillage qui existe depuis des décennies et qui a fait que les Américains, les Texans, ont toujours, la CIA a toujours contrôlé le Moyen-Orient et avait donc besoin de soutenir une implantation coloniale humaine en Israël pour faire une base importante et pour contrôler l'ensemble du Moyen-Orient. Et ceci a mené effectivement à des conflits, à des guerres qu'il est important de terminer. Il faut terminer à la fois nos guerres coloniales et l'importance du pétrole et du gaz par une taxation mondiale, comme ça a été proposé déjà par le sommet des non-alignés en septembre 1979, donc vous voyez, il y a plus de 40-50 ans, au congrès des non-alignés à La Havane en septembre 1979.
Bernard Cornouille, c'est bon de rappeler que vous êtes un expert dans le domaine pétrolier. Vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Alors, comment faut-il donc diminuer l'importance du pétrole dans le monde afin d'être moins témoin de telles guerres que vous avez signalées tout à l'heure?
Il faut plusieurs choses. Il faut d'une part le payer dans d'autres monnaies que le dollar, dans une unité qui soit compréhensible. Personne, dans une assemblée, personne ne sait qu'on contient un baril. J'ai posé la question souvent, personne ne sait, pratiquement, une ou deux personnes experts de ce sujet-là. D'autre part, il faut le taxer, parce qu'en termes économiques, un peu théoriques, la valeur d'usage du pétrole est très importante. En Occident, on pourrait payer le pétrole 400-500 dollars, on continuerait à avoir des voitures, mais ces voitures seraient beaucoup plus pleines. Donc en fait, le seul moyen, c'est de taxer de façon universelle le pétrole très fortement pour en rationaliser l'usage et pour baisser la consommation, qui fera automatiquement baisser le prix aussi. Et donc, cette radiation des usages des énergies diminuera aussi nos émissions de CO2, améliorera le climat et fera que les gens seront plus optimistes sur les décennies à venir, sur l'avenir de la planète.
Tout à fait.
Et donc, mais il faut aussi que cette taxation soit coordonnée, parce que je sais par expérience que s'il y a des différences de prix du pétrole, toutes tasses comprises, comme on a au Sahel entre l'Algérie, le Soudan et le Sahel, comme on a pendant eu des années entre l'Irak et la Turquie, on a de la contrebande. La contrebande des carburants est très, très facile, parce que toute personne qui a une voiture est un client potentiel, et elle amène après la contrebande des drogues, des armes, des personnes,
absolument,
des migrants.
Tout à fait.
Et ceci, il faut ça, que cette corde soit coordonnée au niveau mondial.
Absolument. Bernard Cornu.
Politique de l'énergie.
Oui, absolument. Géopoliticien, géopolitologue depuis Vaucluse. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Bernard Cornu. Un grand
depuis
merci à Matt Dédine Ambrouni, également expert de questions internationales depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les efforts diplomatiques de la République islamique d'Iran pour mettre un terme aux crimes israéliens à Gaza. L'Iran appelle la communauté internationale à prise de conscience face à Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, devait prendre la parole mercredi dernier lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Palestine, mais en raison du retard de Washington dans la délivrance des visas, la délégation iranienne n'a pas pu assister à l'événement. Il a appelé la communauté internationale à mettre à son ordre du jour la poursuite judiciaire des auteurs de l'atrocité dans la bande de Gaza assiégée. Dans sa déclaration qui sera présentée par le représentant de l'Iran à New York, Amir Abdollahian a réprimandé les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, pour ne pas avoir assumé leur responsabilité juridique et morale envers les Palestiniens et leur cause. Cet échec est dû en grande partie au soutien total que les États-Unis apportent au régime israélien pour empêcher toute mesure efficace afin d'obliger Israël à rendre des comptes, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Il s'agit en fait d'un fiasco éthique et d'une dévalorisation de la conscience de la communauté internationale et du système des Nations Unies, mais la principale responsabilité incombe aux puissances qui empêchent catégoriquement le Conseil de sécurité de remplir son rôle tel qu'il est défini dans la Charte des Nations Unies, a-t-il ajouté. La réunion de mercredi 29 novembre a eu lieu pour marquer la journée internationale de solidarité avec les Palestiniens. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la communauté internationale s'attend à ce que le Conseil de sécurité prenne des mesures immédiates après le début des attaques aveugles contre Gaza et qu'elle empêche la poursuite du massacre d'innocents. Qui peut ignorer l'agression du régime israélien contre Gaza, l'une des régions les plus densément peuplées du monde, soumis à un blocus complet depuis plus de 17 ans? Qui peut ignorer le massacre des milliers d'innocents, dont plus de 70% sont des femmes et des enfants? Ces massacres ne constituent pas une menace à la paix et à la sécurité internationale. L'ampleur des pertes civiles au cours de 50 jours d'attaque disproportionnée contre Gaza est sans précédent, a-t-il déclaré. Selon Amir Abdollahian, le nombre d'enfants et de femmes tués rien qu'à Gaza dépasse de loin le nombre total de femmes et d'enfants tués dans divers conflits à travers le monde au cours de l'année écoulée, y compris la guerre en Ukraine. Qui peut ignorer les bombardements aveugles de Gaza par des bombes et d'autres armes interdites telles que les bombes au phosphore, n'épargnant ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les mosquées, ni les églises? Ces bombardements sont des exemples flagrants de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le Conseil de sécurité et ses membres sont devant une épreuve importante après que plus de 16 000 Gazaouis ont été tués et que plus de la moitié du nord de Gaza a été réduite en ruines. Il a déclaré que rien d'autre que la garantie d'un arrêt complet des attaques criminelles d'Israël ne peut compenser en partie la honte morale de la communauté internationale. Il faut être attentif au fait que la pause humanitaire, même si elle est en partie utile, ne se transforme en un outil permettant d'effacer les crimes passés et de créer une opportunité pour perpétrer de nouveaux meurtres. Amir Abdullahian a déclaré que la violence est une marchandise imposée à notre région en raison de l'occupation et de la mégalomanie raciale de l'idéologie sioniste. Le meurtre et l'extermination du peuple palestinien ne devraient pas devenir monnaie courante, a-t-il prévenu. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté « Les auteurs de ces crimes ne doivent pas être autorisés à jouer les victimes et à se soustraire à leur responsabilité devant la communauté internationale. » Il a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU et tous les États à garantir un cessez-le-feu permanent à Gaza, à empêcher l'expulsion des Palestiniens de leur patrie, à fournir immédiatement une aide humanitaire à la population de Gaza et à y reconnecter l'électricité et le carburant. Par ailleurs, et dans le cadre des efforts diplomatiques de Téhéran pour mettre un terme aux crimes israéliens à Gaza, l'Iran a appelé à une enquête de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sur une possible utilisation de ces armes par l'entité sioniste. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires juridiques et internationales Reza Najafi, s'est entretenu avec Fernando Arias, directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Cette réunion s'est déroulée en marge de la conférence annuelle des États membres de la Convention sur les armes chimiques. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la coopération entre l'Iran et cette organisation. Le diplomate iranien a évoqué les crimes commis par le régime sioniste à Gaza et a mis en garde contre la probabilité de l'utilisation d'armes chimiques par le régime sioniste. Monsieur Najafi a indiqué que des États membres de la Convention sur les armes chimiques ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité de recours aux armes chimiques par Israël contre la population innocente de Gaza. Il a souligné que ses préoccupations se sont intensifiées depuis que ce régime a commencé à faire semblant de se soucier de la Convention sur les armes chimiques alors qu'il n'en est pas membre. Il a dénoncé les crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé de Palestine et a appelé à une enquête de la part de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sur l'utilisation possible d'armes chimiques, en particulier d'agents neurotoxiques par le régime israélien à Gaza. La 28e session de la conférence des États membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a débuté lundi 27 novembre au siège de cette organisation et se poursuivra jusqu'au 1er décembre.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sur.